Le renouvellement des générations agricoles est aujourd'hui un enjeu crucial pour l'avenir de notre agriculture et de nos territoires. Les enjeux forts de la transmission ne sont plus à démontrer. En tant que point accueil transmission, l'ADEAR du Lot réalise des actions de repérage, de sensibilisation et d'accueil des cédants. C'est dans ce cadre que le partenariat avec Antadoc s'est mis en place. À travers des émissions, les paysans et paysannes témoignent de leur parcours de transmission, comment transmettre dans un cadre familial ou hors cadre familial, quelles sont les démarches, les intérêts et les enjeux à renouveler les générations en agriculture et quelles solutions existent pour aider à tout cela. Dans cette deuxième émission, je vous emmène à Prandaigne pour y rencontrer Bernard Ferrand, installé en fabrication de yaourts depuis 1988, et Aurore, Simon et Flavien qui reprennent l'activité en collectif. Aurore, fille de Bernard et son conjoint Simon, souhaite reprendre et développer un atelier maraîchage. Ils ont tous les deux passé un diplôme agricole et ils sont sur la ferme depuis quelques années pour apprendre le fonctionnement de la fromagerie. Flavien a rejoint le couple et ils ont formé ensemble un collectif qui a vocation de s'agrandir.
Donc la ferme ici est une ferme familiale. Mes parents produisaient du lait avant que je fasse les yaourts. Et je me suis installé moi en 1988. D'abord avec un petit élevage de lapin angora que j'ai abandonné pour cause de non-rentabilité. Et après, j'ai monté mon atelier de transformation de lait en yaourt. Donc, mon père a pris sa retraite en 1999. Un associé est rentré pour le remplacer. Et puis, voilà, donc on a développé la production de yaourt. On vend un peu partout dans la région. Et depuis 2011, maintenant, je n'ai plus de vaches laitières. Parce qu'à l'époque, la ferme qui m'achetait mon lait a fait faillite. L'entreprise laitière qui m'achetait le lait a fait faillite. Et les gens qui ont repris les tournées dans le coin ne voulaient pas reprendre les petits producteurs. Donc j'ai changé un peu mon fusil d'épaule. J'ai transformé l'atelier de yaourt, donc, qui était produit avec le lait de la ferme, en atelier artisanal. Donc j'achète mon lait maintenant à un producteur bio qui est à Saint-Félix. Et donc, il y a deux structures sur la ferme. Il y a la fromagerie qui a un statut artisanal et la ferme elle-même qui fait 30 hectares sur lequel il y a des prairies, des vaches en pension, production de foin et qui a plein de possibilités, quoi. Voilà, donc moi, je prends ma retraite cette année et donc j'ai souhaité transmettre, évidemment, parce que quand tu as monté une affaire... Tu as travaillé 30 ans, tu n'as pas envie que ça périclite quand on part à la retraite. Donc voilà. Alors, j'ai jamais mis la pression à mes enfants parce que je ne voulais pas qu'il y ait une pseudo-obligation de reprendre quoi que ce soit. Je m'étais dit de toute façon, s'ils ne veulent pas reprendre la fromagerie, elle sera toujours reprenable de manière artisanale. Donc je ne m'inquiétais pas plus que ça. Dans un premier temps, j'avais pressenti Johan, mon fils, qui m'avait un peu fait comprendre qu'il était intéressé. Il a travaillé quelques années avec moi et puis finalement, il a souhaité faire autre chose. Et là, donc, Aurore et Simon, son compagnon, ils m'ont dit ben, nous, ça nous intéresserait bien. Voilà. Donc, voilà, on a commencé à discuter et puis petit à petit, ça s'est mis en place. Voilà.
Quelle question on se pose en premier quand on veut transmettre une ferme?
Alors ça, c'est une question à 1 000 euros. Il y a plein de questions qui se posent. Tout dépend si on transmet une activité à poursuivre ou si on transmet juste un immobilier... à équiper et à faire ce qu'on veut, quoi. Moi, je suis un peu dans les deux scénarios. C'est-à-dire que la fromagerie est un outil en soi qui est rentable et qui dégage un bon revenu. Donc, c'est à continuer. puisque c'est ce qui va permettre d'assurer la sécurité économique de la ferme. Et d'un autre côté, sur la ferme, il y a 30 hectares. Et c'est vrai que là, pour l'instant, j'avais mis un peu la ferme en stand-by en me disant, bon, moi, j'ai pas le temps pour l'instant de faire quoi que ce soit. Et par contre, elle a des possibilités. Voilà. Donc, j'ai laissé ouvert tout ça parce que, bon, quand la question un peu de la transmission s'est posée, j'avais déjà dans la cinquantaine. Et je me disais, bon, c'est les suivants qui feront les choix, quoi. J'ai pas voulu engager l'avenir, quoi. Voilà. Je pense que un des problèmes clés de la transmission aujourd'hui des fermes, c'est que dans beaucoup de situations, il n'y a pas de choix en réalité. On transmet une activité qui est déjà en route et qui demande à être reprise économiquement et financièrement. Mais il n'y a pas toujours la marge de manœuvre pour créer quelque chose de bien, quoi, qu'on a envie de faire soi-même. Donc j'ai voulu éviter ça.
Et en proposant à Aurore, à Simon, c'était logique ou pas ?
Ben, c'était logique, oui. Bien sûr. Moi, j'ai toujours dit, bon, mes enfants, s'ils sont intéressés, ce sera d'abord eux, évidemment. Et s'ils ne sont pas intéressés, ben, il faudra trouver quelqu'un d'autre. Mais c'est vrai que, Johan ne voulant pas, Aurore étant prête à lâcher son activité antérieure pour venir ici, pour faire sa vie ici, bon, c'était évident que, pour moi, c'était bien, quoi. C'était génial. Donc, j'allais pas... Ça me semblait tout à fait naturel, quoi.
Alors, je vais me tourner vers vous maintenant. Est-ce que, justement, est-ce que ça vous paraissait naturel à vous de reprendre cette ferme ?
Alors, pas au départ, parce que au départ, donc moi, j'ai travaillé dans le social pendant une dizaine d'années. Donc, j'étais pas du tout dans l'agricole. Et puis après, j'ai eu envie de faire du maraîchage. Et j'avoue que sur le coup, j'avais pas forcément pensé à le faire sur la ferme de mon père. Alors je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé, mais je pense que c'est parce que il y a pas de maraîchage dans le Ségala en général. Après c'est Simon, mon compagnon, du coup, qui s'est dit bah, pourquoi on le ferait pas chez ton père, vu qu'il part à la retraite et qu'il y a un potentiel. Donc on y a beaucoup réfléchi, on a pesé un peu les pour et les contre, parce que c'est pas toujours simple de reprendre là où on a grandi, avec la famille et tout. Voilà, on a réfléchi à ça. Et quand on lui en a parlé, à la base, on lui a parlé juste de faire du maraîchage. Et il nous a expliqué que lui, il voulait que la fromagerie continue. Donc, soit on reprend le tout, soit il chercherait quelqu'un d'autre pour reprendre la fromagerie. Donc, on a recommencé à réfléchir à l'éventualité de reprendre le tout. Et c'est là qu'on s'est dit qu'on préférerait que ce soit en collectif, pas juste nous deux, mais à plusieurs. Voilà.
On voulait avant tout s'orienter aussi sur de l'agriculture, de la polyculture, quoi. Donc du coup, l'image du collectif était quand même très importante, même si on voulait spécialiser en maraîchage avant tout.
Toi, tu venais de quel milieu aussi, agricole ou pas ?
J'étais, on peut dire, ouvrier. J'ai fait plusieurs boulots différents et on avait vraiment envie de faire un changement de vie. De toute façon, j'avais toujours eu envie de faire une activité agricole, de toute façon. Donc, ça a été plutôt une course dans le temps. Là, ça fait 5 ans qu'on avait pris la décision. Il y avait quand même beaucoup de questions qu'on se posait. Et puis, la gestion de 30 hectares, comme ça, en plus du maraîchage, en plus de la fromagerie, était difficile. C'est pour ça qu'on s'est orienté directement vers un collectif. Donc... à savoir qu'on n'aurait pas pu faire tout ce qu'on fait si on était craints que tous les deux, en fait. Ça allait être très compliqué. Surtout qu'un modèle d'élevage bovin, comme était la ferme avant, est quand même assez difficile, vu le nombre d'hectares qu'on a. Donc, il fallait qu'on change un peu les ateliers, qu'on trouve différentes manières de refaire vivre la ferme.
Ok. Et c'est là que toi, tu interviens, Flavia. C'est ça. Comment tu les as rencontrés et comment tu as atterri ici, alors ?
On va commencer. J'ai atterri dans le Lot suite à un déménagement. Et donc on voulait changer de région. Donc on venait de la région parisienne, côté Normandie. Et j'ai rencontré Aurore et Simon du biais des enfants. Parce que j'ai deux enfants en bas âge, du même âge que les leurs. Et en discutant, ils ont appris que j'avais un diplôme agricole, que je m'étais formé dessus, j'ai fait de l'horticulture et que j'avais en projet de m'installer en maraîchage. Et au bout de 2-3 mois, ils m'ont proposé, je leur ai dit non, actuellement je suis charpentier couvreur, je voudrais acheter mon propre terrain. Et puis au final, de fil en aiguille, ils m'ont présenté leur projet un peu plus concrètement. Et puis j'ai passé le pas. Et donc là, on essaie de travailler ensemble pour lancer l'activité maraîchage. Avec les atouts de la ferme, c'est que du coup, on a de la surface et qu'on peut travailler à plusieurs. L'idée de travailler en collectif et c'est surtout avec la surface, on peut arriver à faire un repas complet et proposer quelque chose de conséquent aux clients, quoi.
Qu'est-ce qui change en fait aujourd'hui par rapport à l'organisation de la ferme?
Ce qui change, c'est qu'on crée un atelier qui n'existait pas du tout, donc le maraîchage, où il n'y en a jamais eu sur la ferme. Il y a toujours eu des potagers, mais il n'y a jamais eu d'activité réellement maraîchère. Donc on le crée de toutes pièces. Donc c'est ça qu'on met en place. Et après, on a d'autres idées sur la ferme, mais pour l'instant, on se concentre sur le maraîchage parce que c'est déjà assez important.
C'est plutôt c'est un peu une course de fond, quoi, en fait. Les projets qu'on fait, on sait qu'on va les étaler sur plusieurs années. Ne serait-ce que le collectif aussi, la notion de collectif est quand même sur le temps long. Même pour l'installer et tout, et avec son côté précaire aussi qu'il peut y avoir, et l'inconnu qu'on peut avoir aussi. Donc au final, savoir vraiment ce qu'on va faire sur la ferme en effectif, on ne sait pas trop. Tout ce qui est un plus important, c'est qu'en fait on refasse vivre cette ferme, quoi. Voilà.
Potentiellement, vous êtes trois, vous pouvez élargir le collectif à... Vous avez envisagé jusqu'à combien?
On cherche un autre associé, là. Donc a priori, on aimerait être quatre, parce qu'il y aurait besoin de deux personnes sur la fromagerie et deux personnes sur le maraîchage. Après, on peut étendre encore, mais après, il faudra faire des choix sur les productions et on laisse un peu la porte ouverte à tout ce qui pourrait arriver. On s'est dit que ce serait... On a envie de se servir du potentiel de la ferme, mais on a envie aussi de privilégier plutôt une rencontre avec quelqu'un plutôt qu'une production en soi.
Comment on se structure dans le cadre d'une transmission? C'est-à-dire, c'est pas simplement on reprend une activité, j'imagine que juridiquement c'est beaucoup de questionnements, financièrement aussi. Comment on trouve des solutions à ça? Où en êtes-vous par rapport à tout ça?
Sur différents aspects, on en a encore à beaucoup de questions et peu de réponses. Sur le juridique, il va falloir qu'on rencontre des juristes. Il n'y en a pas vraiment dans le Lot, donc c'est un peu compliqué. Ce sont des choix où on ne peut pas improviser parce que ça va déterminer beaucoup de choses par la suite. Ça va déterminer les investissements, enfin tout ce qui est financier, ça va déterminer aussi notre place dans le collectif, sachant qu'en plus il y a le fait que moi je sois rattachée à la ferme par héritage, que les autres c'est pas le cas, enfin du coup il y a plein de choses à voir pour que tout le monde se sente à sa place, voilà. Donc ça, c'est assez complexe et on n'a pas encore toutes les réponses. Il y a beaucoup de choses encore qui nous restent à voir, mais après, je pense que quand on reprend une ferme, faut pas se dire que toutes les réponses vont arriver tout de suite. Ça prend du temps, il y a souvent plusieurs interlocuteurs, parce que là, dans le cas de cette ferme, il y a plusieurs propriétaires. Il n'y a pas que, que Bernard. Donc voilà, il faut s'entendre avec d'autres aussi qui ne sont pas dans l'agricole, qui n'ont pas forcément d'intérêt ou quoi que ce soit, ce que ce soit transmis. Donc voilà, il faut se dire que voilà, quand on reprend, il faut faire avec tout ça et ça peut prendre du temps d'avoir toutes les réponses.
Bernard, justement, est-ce que c'est difficile de lâcher quelque part son activité, d'arrêter? Est-ce que tu les accompagnes aussi sur, tu leur donnes des conseils, je ne sais pas, est-ce que tu es présent encore ou pas?
Oui, je suis encore là pour 6 mois officiellement, donc je suis là. Non, mais sérieusement, oui, bien sûr, je les accompagne. Là, ils auront besoin de moi pendant, je pense, 2-3 ans quoi, pour bien rôder, être bien rodé par rapport aux travaux sur la ferme, que ce soit au niveau technique ou voilà, après... Mais après, je leur fais confiance en tant que collectif, quoi. Mais moi, je suis là, je dirais, pour essayer un peu de dire un peu ce que moi, je sens comme possible sur la ferme. Mais bon, je ne prendrai pas les décisions pour eux. Donc voilà. Moi, je peux dire simplement moi, comment moi, je verrai les choses. Y a des choses qui sont jouables. Après, moi, je vais essayer d'amener mon petit grain de sel dans le sens de... toujours garder une autonomie, quoi. Enfin, que la ferme reste autonome et qu'il n'y ait pas d'endettement excessif, qu'on ne se mette pas dans des galères, quoi. Moi, dans ma vie, j'ai passé quand même de longues années à rembourser des emprunts qui étaient assez lourds. Je vais essayer de leur éviter ça dans la mesure du possible, quoi. Mais bon, après, c'est l'histoire aussi, le vécu, les incidents de parcours qui font que ben, des fois, on ne peut pas faire autrement. Voilà. Mais bon, moi je dirais que s'installer sur une ferme aujourd'hui, c'est pas qu'un choix économique, c'est un choix de vie, quoi. Ça, c'est super important. Aujourd'hui, penser qu'on peut faire paysan pour les sous, je crois que personne n'y croit. Voilà. Donc il faut être bien, bien enraciné, au sens de savoir se dire, à un moment donné, c'est ici chez moi, c'est ici que je veux faire ma vie. C'est plus que de l'argent, c'est de la valeur, c'est du temps. Moi, je pense qu'une ferme aujourd'hui, si elle est bien tournée sur de la vente directe, si elle a un bon réseau autour, on peut gagner sa vie sur une ferme sans problème. Mais il faut aussi beaucoup de volonté, et beaucoup de temps et beaucoup d'abnégation pour arriver à un résultat.
Donc il y a Elia qui fait partie de l'ADR qui est avec nous. Et déjà, est-ce que l'ADR vous a aidé, soutenu? Comment
Pas du tout. Pas du tout. Mais bien sûr que oui. Heureusement qu'il y a des associations comme l'ADR qui accompagnent parce que ça nous permet déjà d'échanger entre nous avec quelqu'un qui est extérieur et qui peut nous apporter des connaissances, des billes sur les démarches à faire, etc. Mais aussi qui est là aussi pour peut-être reformuler ou avoir un regard extérieur, en tout cas de ce qui se passe, avoir une vigilance peut-être par rapport à ce qui peut se jouer. Donc c'est important. Moi, je pense que n'importe qui s'installe en agricole, reprise ou création, c'est mieux s'il se fait accompagner. Voilà, je pense. Même s'il se débrouille très bien au niveau des démarches administratives et tout ça, c'est pas vraiment ça le plus important. Enfin voilà, il y a aussi un aspect humain, comme disait Bernard, vu que c'est un choix de vie, c'est pas qu'un choix de métier. Faut être sûr à un moment de soi, et parce qu'il y aura des freins, il y aura des complications, il y aura des doutes, et du coup c'est important, voilà, d'être soutenu. Donc des fois nous, je pense que on est soutenu par nos familles respectives, notre entourage en général, Mais bon, ça peut ne pas être le cas aussi, parce que c'est un choix de vie qui peut paraître complètement fou ou complètement délirant pour d'autres. Donc voilà, il faut s'entourer d'un réseau comme ça, et l'ADR du coup offre ces possibilités, avec des temps de formation aussi, où on est du coup avec d'autres porteurs de projets qui rencontrent les mêmes difficultés, donc ça fait un peu des groupes de parole où on lâche un peu toutes les préoccupations qu'on a.
Elia, donc du coup, comment s'est fait l'accompagnement ?
Alors déjà, on est plusieurs salariés, on accompagne du coup de façon un peu séparée, en premier temps en tout cas, le côté transmission, qui va plutôt être faire avec Bernard, et le projet de création d'activité d'un nouvel atelier, et la création du collectif. Et donc pour ça, on est deux salariés, on travaille ensemble, mais l'idée c'était aussi que chaque salarié accompagne de façon séparée ces deux volets-là, pour permettre d'un côté à Bernard de se poser les questions qui concernent ses choix de transmission, donc ce qu'il a dit, ce qui est important pour lui, les conditions, les aspects financiers qui lui sont propres, etc. Et réciproquement, pour le collectif d'installation, le projet, les projections qu'ils ont, les envies qu'ils ont en faisant ce choix de s'installer paysan et paysanne. Donc ça, c'est un peu peut-être en parallèle et aussi en amont. Il y avait la formation transmission que vous avez tous suivi, enfin en tout cas avant que Flavien arrive, pour permettre aussi de réfléchir à toutes ces questions qui vont être les aspects humains, mais aussi les aspects administratifs, juridiques, financiers. Et après, l'idée, c'est aussi, donc une fois que la transmission s'engage, en tout cas que tout le monde a envie de se lancer dans cette aventure, c'est d'accompagner le groupe en mêlant donc en effet de l'individuel et des temps collectifs, et en essayant de balayer un peu tout ce qui a été dit sur les nombreuses questions qui se posent quand on reprend une ferme, quand on s'installe, quand on transmet, qui sont les aspects financiers, juridiques, mais d'organisation, de liens entre les personnes, et là de façon particulière parce qu'on mélange du collectif, du familial, etc. Donc c'est aussi de nous, notre rôle, je pense qu'il est de permettre d'avoir une vigilance à comment chacun trouve sa place dans cette transmission reprise, quoi, entre les histoires père-fille, couple, collectif, etc. Et questionner aussi justement le rapport à l'argent, le rapport au travail et à l'engagement qu'on veut y mettre, entre autres.
Tu disais tout à l'heure qu'il fallait que tout le monde trouve sa place au sein de votre collectif, transmission, activité. Est-ce que vous pensez tous l'avoir trouvé, votre place ?
Moi, je dirais pas encore, parce que là... vu que c'est une période de transition où Bernard est encore en activité, donc on travaille à quatre. Et en plus, là, Simon, il était en formation en BPREA jusque là, la semaine dernière. Du coup, il n'était pas vraiment présent sur la ferme. Donc, on a travaillé à trois, mais voilà, avec un atelier qui se met en place. Donc, c'était un peu compliqué. Donc là, maintenant que Simon a fini la formation, on va pouvoir vraiment être quatre sur la ferme. Et on va pouvoir un peu plus se caler. Et puis après, quand Bernard il va partir, on va encore devoir se caler. Donc, trouver sa place, c'est pas... je pense que c'est pas... ça peut être des places qui vont être dans des périodes de transition, et que... Sur une reprise, parce qu'une reprise, ça peut durer, 5 ans. Enfin, ça, il peut y avoir plein d'étapes dans la reprise. C'est pas juste, je te donne les clés, et puis voilà, tu te débrouilles. il peut y avoir plein de transitions qui vont faire qu'à chaque fois, il va falloir retrouver une place. Alors, bon, faut essayer de pas bouger tous les mois, parce que sinon, c'est compliqué, mais voilà, il y aura des étapes, quoi.
Tu veux rajouter ?
Encore une fois, c'est pareil, c'est aussi une évolution. La place, elle peut changer aussi dans le temps. Après, nous, on a la chance aussi de faire un tuilage, du coup, cette année, avec Bernard qui travaille encore sur la ferme et nous aussi. Ça permet un peu de déjà se tester et pas avoir beaucoup de contraintes aussi, d'avoir directement dans le grand bain. Et je voulais juste dire que c'était quand même assez important aussi de se donner du temps pour ne pas se jeter dans la fosse tout de suite. Et puis et que de toute façon, sa place, elle se fait dans le temps. Donc il y a des choses qui sont irrémédiables, on sait ce qu'il y a, mais il y a quand même beaucoup de choses qui changent au fur et à mesure. Et même son idée du projet, elle évolue aussi dans le temps. Ce qu'on pensait il y a 5 ans, c'est pas ce qu'on pense aujourd'hui. Avec des bonnes choses, avec des mauvaises choses, et l'un dans l'autre, en fait, on change d'avis assez vite, en fait, sur les perspectives et ce qu'on a à faire, quoi.
Flavien, est-ce que, voilà, au niveau de ta place, est-ce que tu penses qu'elle va bouger, qu'elle n'est pas encore...
Si, enfin, pour le moment, c'est un petit peu acté, c'est que je suis... ça va être plus moi qui vais être sur référent maraîchage. Parce que moi, c'est le travail extérieur. Rester enfermé, c'est pas trop mon truc. Donc, par rapport à la place, elle est là. Après, le plus compliqué, ça va être d'apprendre à travailler ensemble d'arriver à prendre notre place chacun par rapport à nos tempéraments et travailler en collectif par rapport aux différents ateliers. Parce que là, l'idée, c'est qu'on puisse quand même tourner sur tous les pôles pour pouvoir pallier un besoin, un enfant malade, les marchés, toutes les contraintes qu'il peut y avoir, les vacances. Parce qu'on aimerait bien partir en vacances, parce qu'on est reprise d'activité, mais moderne. On n'est pas à l'ancienne où on travaille comme des acharnés, on a besoin de se poser un petit peu. Point de vue place, le temps va nous donner notre place, je pense. Ça va être avec le temps. On a quand même la chance d'avoir Bernard derrière nous, qui nous aiguille un petit peu avec ses petits mots, ses petites phrases un peu subtiles, et qui nous laisse mûrir un petit peu après, on se dit « Ah, il avait peut-être pas tort ». Et après, non, on est quand même suivi avec Simon, on a attaqué un CEFI. Donc la DR... CEFI,
contrat emploi, formation, installation.
Ouais, formation, installation, c'est ça. Et donc du coup, on est suivi par la DR régulièrement, qui nous envoie des petits mails. On se fait des petites réunions pour voir comment ça avance, le travail ensemble et comment les ateliers se mettent en place, quoi.
Comment tu vois justement l'évolution de ces métiers dans l'agriculture je les entends dire, on a envie d'avoir du temps pour nous, de pouvoir partir en vacances, etc. Est-ce que c'est quelque chose que, dans ta vie de agricole, comment tu l'as vécu tout ça?
J'ai pas pris beaucoup de vacances dans ma vie, mais j'ai quand même pris du temps, quoi. C'est-à-dire que quand on est agriculteur, enfin, moi tel que je l'ai vécu en tout cas, on est quand même dans un bel endroit. On n'a pas forcément envie, on n'est pas comme des citadins qui ont besoin de sortir de la ville, quoi. On a besoin de temps libre, oui. Est-ce qu'on a besoin de vacances au sens voyage, partir? Bon, ça, moi, je dis, c'est personnel, quoi. Par contre, besoin de temps libre, besoin de souffler, oui. Je travaille beaucoup dans ma semaine, mais je sais faire mes pauses, quoi. Je sais prendre mon temps. De ce côté-là, j'ai trouvé un équilibre qui me va bien. Bon, après, c'est vrai que, contrairement à eux, maintenant, j'ai plus d'enfants en bas âge. Donc c'est vrai que le besoin de vacances aussi, quand on a des enfants, il n'est pas le même que quand on n'en a pas, quoi. Voilà. Bon, après, moi, je leur souhaite de pouvoir se dégager du temps pour les vacances, mais c'est pas gagné. Enfin, je ne crois pas que ce soit gagné, en tout cas pas dans les 3 ans qui viennent. Quoi. C'est... Ou alors vraiment, il faudra trouver des solutions en termes financiers pour que ça passe. Quoi. Mais bon, tout est possible. Mais il faut savoir que quand on est à son compte, quand on est agriculteur et à son compte, les vacances, il faut les payer 2 fois. Il faut les payer une fois pour partir et pour dépenser les sous quand on s'en va. Et puis, il faut aussi soit se faire remplacer, soit on a un manque à gagner parce qu'on n'est pas là. Quoi. Voilà, donc les vacances coûtent 2 fois plus cher quand on est paysan que quand on est salarié.
Le temps de travail qui change... comment vous le voyez ça aussi? Est-ce que vous aviez envie de couper avec une génération de personnes qui travaillaient non-stop aussi et vivre, avoir du temps pour vous aussi? Ça, vous l'envisagez aussi dans votre organisation?
Oui, on envisage beaucoup parce que ben, on a tous les trois fait des travails salariés où il y avait quand même ce confort-là d'avoir des vacances, des horaires, des week-ends. Et voilà, moi, c'est un confort auquel, j'avoue, je m'étais un peu habituée quand même. Donc, je sais qu'il n'y en aura pas autant. Je sais que ce sera pas aussi simple, qu'il faudra le prévoir, que voilà, ça pourra pas se faire comme ça, je pose mes jours et puis je m'en vais. Mais j'aimerais bien que notre organisation rende les congés possibles quand on en a besoin. Voilà. Après, on ne reprend pas une ferme en pensant à ça tout de suite. Enfin, c'est pas si l'objectif d'emblée c'est un nombre d'heures restreint et tant de vacances par an. Ça va pas le faire. Enfin, on va être très vite déçus. Donc moi, j'ai pas posé de vacances là pour les mois qui viennent, hein, c'est sûr. Mais voilà. Après. On aimerait bien que oui, qu'à un moment ce soit possible.
C'est aussi dans la capacité aussi qu'on puisse voir aussi nos enfants et passer du temps avec eux, quoi, avant tout, je pense. Moi, c'est surtout ça, quoi, en fait. Plutôt que de partir en tant que tel. Je pense que Bernard dire qu'on a besoin de temps libre des fois, c'est quand même la force du collectif, de pouvoir se dégager du temps, mais de manière raisonnable et rationnelle, bien sûr. Après, on commence, donc du coup, on ne sait pas trop nos besoins pour l'instant, mais. On essaiera de tout faire pour les installer au fur et à mesure du temps.
Et apprendre nos enfants à rester dehors pendant que papa et maman travaillent.
Oui.
Ça va être le plus compliqué. Enfin, c'est déjà le plus compliqué, honnêtement. C'est à gérer, ça s'apprend aussi.
Dernière question, est-ce que vous... est-ce que par rapport à la génération d'avant aussi, est-ce que pour vous c'est... C'est l'engagement de toute une vie ou est-ce que dans 10 ans, 20 ans, vous envisagez de faire autre chose ou pas?
Alors moi, je sais que je me suis toujours dit que je m'engageais quand même sur du long terme avec ce projet, que c'est nécessaire parce qu'il faut avoir une vision à long terme. Mais après, je me suis toujours dit que... qu'il fallait un moment que ce soit épanouissant. Voilà, que ça peut être dur au début, ça peut être difficile à des moments, mais il faut que ça ait toujours un sens. Voilà. Si à un moment ça n'a plus de sens, moi ça ne me posera pas vraiment de problème d'arrêter et de faire autre chose. Je pense que notre génération, on est la génération des CV décousus, où on a fait plein de trucs... et qu'on sait que même en tant que salarié, on n'allait pas rester 30 ans dans la même boîte. Voilà, donc du coup, être à son compte et pouvoir à un moment changer, redevenir salarié ou repartir sur autre chose, c'est possible. Il ne faut pas se dire qu'on s'enferme dans un travail jusqu'à la retraite qu'on n'aura peut-être jamais. Enfin, voilà. Donc voilà, il faut que ça ait du sens. Mais après, oui, il faut quand même se projeter sur au-delà de 5 ans, quand même.
Ben un peu pareil, quoi. Après, Bernard nous a montré beaucoup aussi qu'une ferme, ça évolue aussi dans le temps. Donc le côté sacrificiel que peut avoir une ferme, c'est aussi, comme disait Bernard, de s'établir quelque part. Et qu'après, au final, ce que l'on souhaite faire, ça peut évoluer mmh. aussi. Donc c'est... ça reste quand même une belle liberté. Quand même. Mmh. Voilà.
Ben moi, j'ai fait plein de boulots différents, plein de choses. Et mais je me vois pas faire autre chose que l'agricole. Pour moi, ouais, je suis bien dans ce milieu-là, quoi. Donc, je vois pas ce que je pourrais faire d'autre, hormis peut-être faire marchand de rêve et reprendre l'animation et faire le clown. Mais bon, ça nourrit pas, quoi. Voilà.
Bernard, quel je sais pas si on peut appeler ça conseil, mais qu'est-ce que tu pourrais dire pour cette nouvelle génération aussi?
Alors, c'est pas que pour nous, hein, c'est la nouvelle génération.
Ben, je crois que si on veut que réaliser quelque chose dans la vie, il faut s'en donner les moyens. Voilà, il faut être prêt à ce que ce soit... ça ait du sens, oui. Ça a toujours du sens de faire quelque chose. Et après, il faut pouvoir serrer les dents et se dire on va y arriver. Voilà, il ne faut pas se décourager quand ça devient un peu difficile, parce qu'il y a toujours des moments où ça va coincer un peu. On ne va pas arriver à avoir tout ce qu'on veut, à ce que ça aille aussi vite qu'on veut. Mais il faut regarder le temps long, quoi. Voilà. Il faut. Quand tu t'installes à ton compte, paysan ou pas, paysan d'ailleurs, il faut avoir un objectif à 10 ans, quoi. Il faut se dire, dans 10 ans, voilà à peu près où je vais arriver, quoi. Mais si tu commences à te décourager au bout de 2 ans, vaut mieux pas y aller, quoi. Vaut mieux pas y aller.
Qu'est-ce que tu vas faire après, quand tu seras réellement à la retraite?
Garder les petits enfants.
Tiens, tu couperas ça. Non, je pense d'abord, dans un premier temps, je vais rester par là, parce que je pense qu'ils auront besoin de moi pendant quelques temps. Alors, moi, le deal que j'ai fait, c'est que je veux bien être sur la ferme pour aider, c'est-à-dire pour des chantiers, pour du bricolage, pour du conseil, pour... voilà. La présence, on va dire, et quelques compétences, mais je ne veux pas faire le boulot ordinaire. C'est-à-dire que à partir du moment où je serai à la retraite, je ne mets plus les pieds à la fromagerie. Voilà, c'est un peu ma limite, c'est-à-dire que je veux bien être là pour plein de choses, mais le travail ordinaire doit être fait par ceux qui gagnent leur vie avec.